sommes le lundi 15 mai 2023. Nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club de la Presse sur Canal FM et tous ses médias partenaires. À Nero, à Takpame, Sokode, Bassar, Niamtougou, Baga et Dapan et dans le monde entier. Vous saurez vous reconnaître sur chacune de ces médias et chacun de ces canaux numériques par lesquels nous sommes en communion dans le Club de la Presse. Nous voudrions saluer très chaleureusement nos collègues Pascal Komilosu et Fousseni Saïbou qui ont chauffé le Club de la Presse le jeudi et le mardi quand nous n'étions pas là. Nous étions à Takpame pour... nous étions donc à Palimé pour un atelier d'information et de formation sur la problématique de la relance de la lutte contre la corruption. Nous allons en parler d'ailleurs avec certains des collègues qui sont ici dans ce studio. Mais laissez-moi vous dire qu'à la technique, nous sommes accompagnés par le duo Vitogbe Kokou, Michel Tomega et Jérôme Dakoucha qui va arriver incessamment. Eh bien, les confrères ici au studio, Uriel Kakpala et Nyang de Mega Info, bonjour.
Bonjour, Sasuke Gao Innocent. Bonjour à tous les confrères ici présents. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci pour l'invitation.
C'est un plaisir confraternellement partagé, n'est-ce pas, Jean-Baptiste Kodjovia Ticho de Corps diplomatique Togo.com, c'est ça?
Ok, point TG.
Point TG, oui.
C'est ça, ok. Bonjour, ça, c'est bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent au Togo et à travers le monde entier. Nous profitons de cette occasion pour saluer nos amis qui nous sont chers et qui nous écoutent dans un coin de Lomé. Je ne veux pas donner le nom du quartier, mais ils sont très scotchés.
Quand on commence, on va au bout. Quand je dis, vas-y, c'est quel quartier?
Arligo.
Arligo, voilà.
Arligo, c'est ça.
Et puis le troisième invité, Harry Niaou Tchanyao de Nouvelle Opinion. Bonjour.
Sas, bonjour. Je salue toutes les Togolaises et tous les Togolais qui sont branchés sur la 93.5 et qui nous écoutent en ce moment sur le territoire togolais et hors de nos frontières. Et je profite de ce micro pour souhaiter agréable semaine de travail à tous les Togolais.
Merci. Nous attendons un quatrième confrère, mais assurons-nous qu'il nous aura rejoint avant de vous le présenter. Mais déjà, nous pouvons découvrir la pensée du jour qui dit ceci. La société est devenue si malhonnête que la vérité offense réellement les gens. Encore une fois, la société est devenue si malhonnête que la vérité offense réellement les gens. Je sais compter sur vous, que chacun se dise que je serai l'exception pour infirmer cette pensée si négative, même si c'est une réalité. Notre société est devenue si malhonnête, mais chacun doit se dire, je ferai l'exception pour infirmer cette règle, n'est-ce pas, Kakpala?
Tout à fait, vous savez, dans tous les secteurs aujourd'hui et de par le monde, la malhonnêteté semble s'ériger en règle, à tel point que quand le malhonnête entend dire la vérité, il est choqué et il entreprend d'autres procédures. Nous devons quand même faire des efforts chaque jour que Dieu fait, pour être des exemples en honnêteté. Vous savez, l'honnêteté, ça peut être cher. Aujourd'hui, lorsqu'on doit recruter quelqu'un, mis à part les tests qu'il subit, n'oubliez pas qu'il y a les enquêtes de moralité qui tournent autour. Même si on ne te le dit pas, on le fait. Les gens ne le savent pas après l'écrit, après la pratique, qui se dit, là, je ne comprends rien. Mais ce sont les enquêtes de moralité qui ont révélé que la personne serait malhonnête. Son entourage, Il faut faire toujours les efforts pour être honnête vis-à-vis
Merci.
Des autres.
Merci. Nous choisissons, nous, le côté positif. Nous sommes parents. Chaque parent doit se dire, je suis le bon exemple de mes enfants. Les enseignants doivent se dire, je suis le bon exemple pour mes élèves. Et les hommes politiques devraient se dire, je suis un bon homme politique, je suis une bonne femme politique, un bon modèle pour la société. La société civile, ainsi de suite, et nous irons de l'avant. Eh bien, au menu aujourd'hui, nous allons revenir naturellement sur la relance de la lutte contre la corruption, ce que fait la APUCIA, qui vient de rassembler autour d'elle près de 60 journalistes pour 2 jours. Comment relancer cette lutte-là? Nous allons y revenir. Et également revenir sur ce qu'on peut appeler le réchauffement de l'axe Lomé-Paris avec cette visite officielle que Forgna Simba a effectuée à Paris sur invitation de son homologue Emmanuel Macron. D'autres sujets de l'actualité, mais l'actualité pluviale de ce matin nous commande de commencer l'émission véritablement par la pluie qui a arrosé Lomé ce matin. Nous avons appris que après la pluie, c'est le beau temps. Mais est-ce que c'est le beau temps partout? J'ai déjà surpris dans une sur une plateforme une alerte de la police qui alerte donc sur la chute d'arbres sur l'axe Todman, sur le boulevard
de la Cara.
Non, c'est pas de la Cara. La rue Collège Protestant à Ticoumé, au niveau de quartier Casablanca, il y a un arbre qui est déraciné, qui a chuté sur la route là-bas. À Dido Gomé, au grand carrefour douane, c'est un grand poteau publicitaire qui s'est effondré. Dieu merci, n'ont pas connaissance de dégâts humains. Et puis, les bassins d'orage sont quelque part, en quelque sorte, en souffrance. Que ce soit à Léo 2000, au carrefour de Lyon, ou encore à Didouadin, ou au grand carrefour à Didogomé Douane, les bassins d'orage ont débordé, charriant et eau et déchets et ordures, aussi bien sur la voie qui est obstruée également dans certaines maisons avoisinantes. Jean-Baptiste Kodjoviaticho, c'est le petit bilan que nous pouvons esquisser suite à la grande pluie qui a arrosé le ce matin.
Oui, ça, je crois que le bilan qui est dressé par la police ne saurait être...
Non, c'est pas la police qui a lancé.
Ok.
Pour l'arbre qui a chuté.
Ok, oui. Je crois que, bon, le dégât est plus important parce que avoir les artères que moi j'ai eu à parcourir ce matin avant d'être au studio.
Lesquels, par exemple?
Vous voyez...
Pour nous aider à mieux nous utiliser.
Bien sûr, quand vous prenez la voie de l'aéroport vers Mèche Amina, vers Mèche Amina, il y a beaucoup de panneaux, je crois 2, qui sont tombés sur cette voie. Et il y a aussi un arbre dont une branche importante a chuté, s'est détachée. Quand vous prenez l'avenue Akei qui quitte la station Cap au niveau de Novici pour arriver au niveau de la résidence de la caisse. L'avenue Akei là.
Oui, le sud de la résidence du Bénin.
C'est ça, pour chuter sur la voie, le boulevard Yadema, dans le corner là, il y a 4 bons panneaux qui sont tombés et jusqu'au niveau du bar 3K. Au bar 3K, donc il y a 4 panneaux qui sont tombés là-bas aussi. Et je crois qu'il y a l'un d'eux qui a obstrué même une partie de la chaussée. Donc je crois que voilà ce que moi j'ai eu à voir comme dégâts causés par la pluie de ce matin.
Uriel Kakpala de Legbasito, bien Vakosito, où tu habites.
Legbasito.
Alors là, quand tu es venu de chez toi jusqu'à Lomé, jusqu'au studio de Canal FM, que peux-tu nous dire sur les suites de la pluie de ce matin?
Non, vous savez, avant, lorsqu'on disait quelqu'un habite à Tokoen Trésor, il a Tokoen Badago, tout ça là, nous on avait envie d'y être. On se disait que on habite dans Agoignivé 2, peut-être nous sommes à la périphérie de la ville. Mais tout ce que j'ai traversé pour arriver à Nkopé ici, je vous assure que je préfère être à Legbasito. Puisque après, oui, je préfère être à Legbasito parce que vous subissez plus des inondations que nous. Quand vous arrivez au niveau de Deux Lions, les deux bassins jumelles de rétention d'eau, c'est difficilement vous pouvez traverser.
Ils ont débordé.
Ils ont débordé. Mm-hmm. J'ai même feinté le carrefour Bodjona parce que je ne sais pas si le bassin qui est devant là-bas, vers l'hôtel Concorde, comment ça sera. Mm-hmm. Mais à Toti, je ne sais pas ce que monsieur le maire Golfe 5 Daboka.
Oui.
Voilà, il y a un souci là-bas qui date. Je ne sais pas ce qu'il attend pour. En face de Fisek Toti.
Oui.
Juste après UTB Toti.
Oui.
Mais voyez, quand il pleut, il y a une eau qui fait des fois plus d'un mois. Et pour rentrer au marché de Toti, vous ne pourrez pas. Actuellement, s'il faut descendre ta voiture dans l'eau, là, franchement, c'est difficile.
Au niveau de la Copa Solidarité, réseau FISEC à Toti.
Exactement.
Mm-hmm. À côté du marché là-bas.
À côté du marché mm-hmm. là-bas, c'est toujours très difficile. Je ne peux même pas énumérer tous les points critiques que j'ai traversés pour venir ici. Mais ça ne dépend de personne. Lorsqu'on le constate, bon, c'est à l'autorité de prendre des dispositions à court ou à long terme pour trouver des palliatifs. Mais pour ce qui concerne le bassin de rétention, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Sinon, un jour viendra, nous serons tous des batraciens.
Merci. Eh bien, Harry Miaou, donc alerte, hein, les arbres se sont déracinés, certaines branches détachées et qui sont tombées sur la voie, les panneaux publicitaires par endroits, les inondations, notamment au bassin de rétention, je rappelle, d'après nos constats, à Léo 2000, au carrefour de Lyon, au Adidouadin et puis au grand carrefour Adidou-Gomé-Douane. Donc, tous ces bassins ont débordé et le constat, c'est qu'il n'y a pas de collecteur ni d'exutoire et surtout, il n'y a pas de dispositif qui permette de pomper automatiquement les eaux vers les lagunes et la mer. Bon, nous disons ça pour que ceux qui emprunteraient ces voies-là sache à quoi s'attendre. Harry Miaou.
Oui, moi, je crois que c'est surtout cette question des bassins de rétention qu'il faut revoir. Et tout le monde en parle, mais depuis, je vois qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Nous avons commencé par parler de la pluie à ce studio. Nous avons parlé de ces bassins. J'ai souvenance qu'il y a deux semaines, Diakouti nous annonçait qu'au niveau d'Adidou-Gomé, sur la voie Ségué, l'eau avait carrément débordé et envahi la route où les gens contournaient carrément. Je ne crois pas qu'on a pris des dispositions pour faire en sorte que cela ne se répète. Et pour tous les bassins que nous énumérons ici, nous en avons parlé ce jour. Et à deux semaines, nous voici encore, rebelote, dans la même situation. Et je crois que si on ne prend garde et si les gens ne prennent leurs responsabilités pour mettre ce qu'il faut, pour éviter que ces bassins débordent, comme nous le vivons, il va falloir que le pire arrive pour que les gens se mettent à courir. Je le dis tout le temps parce que ça donne l'impression que nous avons souvent la coutume de courir après les grands dégâts. Aujourd'hui, Uriel a évoqué des situations. Et les gens qui doivent prendre la mesure de corriger ça, ils voient ça. S'ils n'ont pas la voix pour parler, nous on a parlé ce matin, on nous a construit des routes que nous saluons. On a pris des mesures pour que le maire ait un look acceptable d'un peu partout. Mais les à côté qu'il faut régler, qu'il faut revoir, qu'on prenne aussi la mesure de le faire, au pire que les gens périssent avant qu'on se mette à courir. Parce que moi, quand je regarde certains bassins, chaque jour que je passe et je vois des bassins, mon cœur bat, mon cœur saute. Et je me dis, qu'adviendra-t-il si ces bassins lâchaient et envahissait presque toutes les maisons d'à côté. Et si moi je le crains, je crois que ceux qui nous dirigent, ceux qui ont la charge de prendre ces mesures-là, ils le suivent également, qu'ils le fassent, et ce sera un tout tout beau pour notre pays.
Merci. Didier Komia Sogba, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Tu habites, je crois, à Ouiti.
Oui, oui, j'habite.
Alors, de Ouiti à Canal FM,
en pleine ville.
Ce que tu as pu observer suite à la pluie de ce matin.
Oui, un peu d'inondation et également des plaques, enfin des panneaux publicitaires qui ont chuté ici et là. Et on voit que ça a été une grande pluie, une véritable grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Lomé depuis le début de soirée d'hier. Et un peu partout, on a vu les alertes ici et là, on voit les images et on prend les informations des amis, de la famille, des collègues qui vivent dans d'autres quartiers et c'est pas du tout reluisant, pour beaucoup de quartiers actuellement. Uriel se réjouit d'habiter dans Gonivé 2. Ben, il n'a qu'à prendre son mal en patience. Oui, il n'a qu'à prendre son mal en patience. Il y a des quartiers à Lomé ici. Quand on disait aux gens qu'en 2023, ils vont connaître des inondations, ils ne vont même pas croire. Mais à force d'occupation, à force de construction des maisons, des lots vides aujourd'hui à l'Egbacité et tout ça, qui recueillent aujourd'hui une bonne partie de ces eaux de ruissellement, lorsque ces endroits seront bâtis, finalement l'eau viendra s'installer un peu partout dans le quartier. Et donc, si on y prend garde, je pense, quelqu'un dit ici qu'il faut que nous anticipons sur certaines choses pour ne pas avoir à revenir courir derrière les grands dégâts. Je pense que nous sommes toujours au début de la saison des pluies. Les autorités peuvent... Il y a beaucoup de situations. Des pays ont connu pire que nous. Quelqu'un une fois dit qu'est-ce qu'on n'a pas pu construire en Hollande, aux Pays-Bas, pour que des gens comprennent mieux. On a construit beaucoup de choses aux Pays-Bas. Ailleurs, il y a d'autres situations, mais il y a de l'expérience également. Tu as parlé tout à l'heure de motopompes qui devraient pomper automatiquement une partie de ces eaux-là. Pourquoi ces motopompes ne fonctionnent pas alors que nous avons les maires, les communes, et ces communes sont censées s'occuper de ces problèmes de nos quotidiens? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pompage automatique? Ailleurs, on dira que le groupe ne marche pas, qu'il n'y a pas de carburant dans le groupe, il n'y a pas de gardien au niveau des bassins de rétention. Il y aura beaucoup d'arguments, mais on se demande jusqu'à quand on va prendre les dispositions pour que les dégâts qu'on enregistre aujourd'hui ne soient pas des dégâts qu'on enregistre demain. Véritablement, ça va être une question de société. Et que ceux qui vont souffrir de cette vérité que la pluie nous impose là, souffrent qu'on en parle quand même, parce que j'ai écouté, vous avez dit l'adage du début, ça va étonner des gens pourquoi on parle comme ça, mais nous sommes dans le bas-peuple. J'ai le plaisir de dire que nous sommes dans le bas-peuple, nous vivons avec les difficultés du bas-peuple tous les jours, et nous savons de quoi il s'agit. Pour quelqu'un qui est inondé actuellement, rien n'existe pour lui au monde. Oui. Et cette vie-là, tout ce que vous racontez, là, ça n'existe pas pour lui. Quelqu'un qui est dans l'eau actuellement, tout ce que vous racontez, ça n'existe pas pour lui.
Merci Didier, merci Uriel. Merci Komi. Merci Kakpala. Merci Kodjovi et merci Arim Yaou pour faire avec des prénoms de notre terroir. Eh bien, c'est la réalité ce matin. Nous avons alerté sur les points critiques. Si vous devez sortir d'un quartier, aller à l'autre, prenez la disposition pour ne pas être surpris, comme j'ai dû faire une grande déviation ce matin pour éviter le carrefour à Didier Gomé. Et la police qui alerte, c'est bien. Laquelle police sait très bien que peut-être que les gens seraient inondés et qu'il faudrait leur porter secours. Au-delà de la police, c'est plutôt l'ANPC, l'Agence Nationale de la Protection Civile, qui doit prendre la disposition pour secourir certains de nos compatriotes qui auraient les pieds et leurs effets dans l'eau, et un peu également les communes, pour ce qui est de leur compétences. Et puis au-delà de Lomé, c'est tout le Togo qui doit maintenant connaître progressivement la grande saison des pluies. Et la NPC qui a déjà anticipé en lançant l'opération Telebeki, excusez-moi si je prononce mal, en Konkomba. Cette opération Tilbiki qui a démarré avec des simulations grandeur nature il y a quelques jours dans les préfectures de Dangpen et de la Kéran pour anticiper les inondations, les épidémies et éventuellement les conflits intercommunautaires. Sans transition, l'atelier qui nous a occupé la semaine dernière, le jeudi et le vendredi, j'étais à Palémé avec Kodjovi Aticho, avec également Komi Didier. Au total, pas moins d'une soixantaine de journalistes, et pas des moindres, que la APLUSIA, la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées, jeudi, vendredi, à Palémé. Nous en revenons. J'ai lu vos articles Togo Breaking News et Corps diplomatique.tg. Mais quand je viens à Ticho, veux-tu nous résumer ce que toi, moi et les autres, nous avons fait à Kpaliemé les jeudis et vendredis derniers?
Oui, ça, c'est... merci pour l'honneur. Évidemment, jeudi, dans la matinée, l'atelier que la APLUSIA, la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées, a rassemblé autour d'elle une centaine de journalistes et communicateurs, parce que parmi nous, il y a les chargés de communication de certaines institutions telles que celui du ministère de la communication et des médias, et celui de la HAC aussi était là, et d'autres institutions aussi qui, dont les chargés de communication aussi, ont suivi la formation avec nous. Et donc, la cérémonie d'ouverture, si on peut parler d'elle, a connu le discours de trois personnalités, dont le préfet de Kloto, Monsieur Hervé Hassan, qui a souhaité la bienvenue.
On va passer sur les
c'est ça, c'est ça.
Le et puis, le préfet et le
maire de la commune qui était là pour nous souhaiter la bienvenue. Et après cela, il y a eu le discours d'ouverture officiel du président de la APLUSIA qui a brossé de façon sommaire les méfaits de ce fléau qu'est la corruption dans notre pays, et il a fait un tout tant soit peu le bilan de cette institution pendant les presque 8 ans de sa création. Et vous n'êtes pas sans savoir que la APLUSIA a été créée par décret en 2015, et donc pendant les 8 ans, elle a recueilli au total 78 plaintes, elle a pu instruire 3, et puis une plainte a été classée sans suite, et selon le président de cette institution, la plupart des plaintes concernent plutôt les conflits fonciers, et selon les compétences et la mission de la APLUSIA, elle n'est pas quand même chargée de traiter les questions liées au foncier, donc elle a redirigé ceux qui ont les requérants, donc aux institutions judiciaires qui doivent s'occuper de la résolution de ces conflits fonciers. Et revenant à au contenu réel de la formation, je crois qu'il y a eu cette communication qui sont axées sur les rôles et responsabilités des médias, la lutte contre la corruption, le journalisme d'investigation et la lutte contre la corruption. Ensuite, il y a eu des communications liées aux notions de présomption d'innocence, parce que vous savez, si nous sommes journalistes, quand nous voulons écrire ou bien sortir un dossier concernant les personnalités ou bien les autorités ou bien les institutions en général qui ont eu à détourner des fonds, il faudrait que nous essayions quand même de les protéger et savoir avoir toutes les preuves nécessaires avant d'écrire nos articles et faire nos productions journalistiques. Donc on a été formés sur cela aussi, et la mission et le mandat même de la APLUSIA aussi a été présenté aux hommes de médias.
Merci.
Qui étaient là.
Ça a été deux jours de partage intense. Les communications, par exemple, qui ont porté sur la présentation de la APLUSIA, son mandat, ses missions et son bilan. Jean-Baptiste en parlait. D'autres communications, la corruption, ses manifestations, ses causes et ses conséquences. Autre communication encore, la répression des actes de corruption et d'infractions assimilées. Ensuite, comment le journaliste doit quand même respecter la présomption d'innocence dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et puis, après le deuxième jour notamment, les journalistes ont revisité les normes d'éthique et de déontologie du journaliste dans la lutte contre la corruption, ou encore le rôle et la responsabilité des médias dans cette lutte. Et puis enfin, le journalisme d'investigation et lutte contre la corruption. Didier, pour rappeler que ces communications étaient délivrées par des gens qui connaissent leur métier. D'abord, le président de la APUCIA en personne, qui s'est montré disponible durant les deux jours. Il y avait également son vice-président, M. Aticho. L'autre membre également, Mme Aïna, membre de la APUCIA. Sans oublier nos amis Haruna Larja et... prêtez-moi le nom.
Aladjou
Agouta. Oui. Mais d'autres communications étaient délivrées également par Madame Aticho, vice-présidente de la CNDH, qui était là. Et notre ami et confrère Pierre Kasserek Sabi de la HAC a également délivré une communication. Et puis notre cher Michel Tadja avec le Métocop et également Augustin Sizing pour dire que c'est un ensemble de communications assez riche, et tout ça nous a amené à des recommandations vraiment pertinentes. C'est ça même qui a été le fruit de cet atelier qu'on pourra exhiber pour demain, comme Didier.
Oui, oui, justement, vous avez tout dit et tout décrit, et on comprend justement que la question de la corruption, ça reste une préoccupation aujourd'hui nationale et partagée par tous. Tout le monde est d'accord quand un peu plus de 10 milliards partent par ce chemin-là de la corruption chaque année.
Au moins, 10 chaque milliards année, au moins.
Oui, oui, moi même. Bon, voilà, selon les études commanditées par la APUCIA, c'est le chiffre qu'il nous est donné. Ça a été au moins un chiffre obtenu à partir des études. Ça n'est pas la réalité peut-être, mais c'est approximatif. Mais ça reste quand même une gangrène. Quand on perd 10 milliards comme ça par an, ça reste une gangrène. Et j'ai découvert un président de la APUCIA qui est véritablement quelqu'un qui a pris conscience du dossier qu'on lui a remis et qui naturellement a pris son temps pour on dirait que il était toujours président de la APUCIA. Façon il maîtrise les dossiers, façon il donnait sa communication, on dirait que c'est quelqu'un qui était depuis longtemps dans le dieu. Et c'est là que j'ai compris que pour avoir dirigé le GIABA, par exemple, il maîtrise le domaine de la corruption, il maîtrise la question de la corruption, et naturellement l'État a justement voulu capitaliser sur l'expérience qu'il a acquise au niveau du GIABA, et c'est ce qu'il a commencé déjà par faire, par frapper ou par mobiliser le secteur qui peut mieux l'aider justement à remplir cette mission-là qui est le secteur de la presse. Et quoi de plus mieux que de ne pas aller chercher les experts, des expatriés que nous n'aimons pas véritablement dans ce genre de secteur, comme Arim Yaoub ne me démentira pas. Il a cherché des experts d'ici, des gens qui connaissent la réalité du terrain, la réalité du métier du journaliste, mais la réalité également du Togo, pour justement dire aux médias ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, comment ils peuvent justement aider la APUCIA à relancer cette lutte-là, qui est justement la grande mission, ou la grande partie de la mission que mène actuellement la APUCIA, c'est la sensibilisation et la prévention. Mais à l'issue de l'atelier, on a compris qu'il y a une nécessité aujourd'hui que l'État dote d'autres pouvoirs, accorde d'autres pouvoirs à la APUCIA, pour qu'au-delà de la prévention, de la sensibilisation, qu'on puisse aller justement sur la question où on devrait juger des gens, et d'où l'idée lors des communications d'un parquet
national financier
pour connaître les questions économiques des gens ont évoqué, ont demandé de copier sur c'est la criette, non, au Bénin,
du Bénin
et tout ça, oui, en Guinée, mais bon, ça peut faire peur aux gens. On peut trouver un autre nom à notre parquet financier ici pour que au moins il y ait justement ceux qui se rendent coupables des faits de corruption au vu au sud de tout le monde, au moins qu'il y ait des exemples de châtiments comme ça, les gens seront découragés. Et le dossier que Jean-Baptiste a dit tout à l'heure, que la APUCIA a instruit et qu'ils ont finalement classé, passe ensuite Mais il nous a été dit clairement que le dossier a été classé parce que quand l'affaire est arrivée au niveau de la pulsière, les gens ont eu peur et ont remboursé l'argent qu'ils ont volé. Et donc, vous voyez, si on peut avoir des exemples comme ça, je pense que la gangrène que constitue aujourd'hui la corruption, ça va émerger dans le pays.
Estirpé dans nos rangs. Et depuis Palémé, nous suivions comment les médias couvraient l'atelier au jour le jour. Alors ce matin, une nouvelle opinion revient là-dessus, écrit « Collaboration entre la Aplusia et les médias, une nouvelle ère s'ouvre dans la lutte contre la corruption. » Pendant que Togo Matin lui parle de lutte contre la corruption, la Aplusia et la presse ensemble engagés, et que Meda Info revient sur l'une des recommandations dont l'atelier a accouché, Uriel Kakbala. Ton journal écrit « Besoin d'un parquet national financier pour le traitement exclusif et accéléré des affaires de corruption ». C'est l'une des recommandations de l'atelier de Palémé.
Tout à fait, l'une des recommandations à l'endroit du gouvernement. Vous savez, ce sujet, le président de la Aplusia, il semble prendre le taureau par le corne. Et nous pensons qu'avec les médias, tout se passera bien. Pour que, comme l'a signifié Didier, les auteurs des crimes financiers, les auteurs de corruption, puissent lire leur avenir d'avance et commencent par reculer. Vous savez, au-delà de tout ce que vous avez vécu à Palémé, moi je n'y étais pas, j'ai été représenté, mais je n'y étais pas. Tout ce que vous avez mené comme activité, au-delà de tout ça, nous avons souhaité aussi que pour que le public soit suffisamment informé de ce que c'est que l'acte de corruption, il va falloir que l'État prenne les dispositions, le gouvernement prenne des dispositions idoines, en commençant par la création de ce parquet national financier pour traiter avec célérité et exclusivité les dossiers relatifs à la corruption. S'il y a des juges qui chaque jour n'ont que pour mission de traiter les dossiers liés à la corruption, vous allez voir qu'il y aura un avancement significatif. Ces juges-là, peut-être en collaboration avec les médias, pourront animer au quotidien des émissions sur les radios partout pour informer suffisamment le public sur ce que c'est qu'un acte de corruption et dans tous les secteurs, comment ça se déroule. Comme ça, ça sera plus ou moins aisé à quiconque voudra lancer une alerte. Ça sera plus ou moins aisé. Il y a des actes de corruption que nous constatons sans savoir que ça, c'est un acte de corruption. Mais il faudra que les professionnels en la matière nous informent pour que nous sachions que ça, c'est le début d'un acte de corruption. Si on laisse s'en aller, ça aboutira à quelque chose. Vivement, que les recommandations émises, surtout à l'endroit du gouvernement, je l'ai dit parce que c'est le gouvernement qui a le pouvoir, même ce qui est dit à l'endroit des médias, ce qui est dit à l'endroit de la Aplusia, on peut tout accepter, on peut vouloir tout mettre en œuvre, mais si on n'a pas l'accompagnement du gouvernement, on ne pourra pas aller de l'avant. Donc c'est au gouvernement vraiment d'exprimer cette volonté-là, de prendre de la hauteur et dire que à partir de cet instant, c'est nous qui avons mis en place la Aplusia. Je dis nous, c'est nous et nous qui remplacent le gouvernement. C'est qui ont mis en place cette institution. Il faut qu'elle fonctionne, qu'elle rende service au pays. Sinon, les années passeront, on sera sur les mêmes sujets, on sera au même endroit, on parlera, ça ne changera rien. Mais si le gouvernement veut vraiment que ça change, ça va changer.
Merci Harry Miaou, les recommandations, tu ne t'es pas parlé, mais tu les connais autant que nous. Ces recommandations qui vont à l'endroit de la Aplusia, dans le sens de renforcer la collaboration entre la Aplusia et les médias, comme tu l'écris déjà ce matin, que la Aplusia organise périodiquement des sessions de renforcement de capacité des journalistes et communicateurs, entre autres, encourager les professionnels des médias à renforcer les réseaux pour échange d'expériences et autres, et puis plaider auprès du gouvernement et des partenaires au développement pour un appui technique et financier aux organisations des journalistes comme le CONAP que tu présides. Ces recommandations pour nous les participants nous-mêmes, et ce qui également ce qui est important à l'endroit du gouvernement, l'une des recommandations c'est ce que Média Mega Info affiche, la mise en place d'un parquet national financier pour le traitement exclusif des affaires de corruption, que le gouvernement adopte les textes pour protéger les lanceurs d'alerte et les informateurs. Autre recommandation, c'est la révision de la loi portant création de la APUSIA en vue de lui conférer plus de pouvoir, notamment d'investigation, et puis adopter un texte pour réguler les médias sociaux et faciliter la mise en œuvre de la loi portant accès à l'information et à la documentation. Vivement maintenant que nous continuons à travailler pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Rémiao.
Ma foi, ça, je n'étais pas à Palimé, mais depuis mon petit salon d'Avedi, je suivais tout ce qui...
Ton petit salon n'est pas... Ton salon n'est pas petit, je le connais.
Non, ça, je suivais à peu près tout ce qui se passait, parce que j'avais des gens qui m'informaient, et puis au quotidien, j'ai vu que c'est dit sur le travail qui a été abattu. Et pour moi, ce qui est important, c'est que à partir du moment où, depuis le sommet, les gens prennent conscience, ils mettent des mécanismes sur pied. Au début, les gens ont pensé que APUSIA dormait, APUSIA stagnait. Et à partir du moment où la conscience a pris le dessus et que les gens sont en train d'affûter les armes pour attaquer, pour moi, il y a déjà le combat qui est en train d'être gagné, la bataille est en train d'être gagnée, parce qu'il y a quelque chose que nous n'apercevons pas, que nous ne percevons pas. Et quand la dernière fois, il y a eu le rapport de la Cour des comptes, je ne sais pas si...
Sur la gestion de la COVID en 2020.
Je ne sais pas si chacun a vu comment le mouvement a été. Et je ne sais pas si après ce rapport, chacun de nous a pu approcher ceux qui sont aux affaires, ceux qui travaillent, ceux qui tournent autour de deniers publics et qui travaillent. Tout le monde dit « Ah, attention !»« Ah, attention !» Il y a la Cour des comptes. Et je vous assure qu'aujourd'hui, les gens ont commencé. Après Palimé, les gens vous diront bientôt « Attention, il y a plus, il y a... » Puisque on a renforcé. Déjà, ce qui s'est passé avec les recommandations, c'est un renforcement de capacité et derrière, une volonté manifeste de traquer. Donc, à partir de ce moment, je crois et j'ai foi que APUSIA va réussir et j'ai foi également que le Togo va changer. Parce que hier, si les gens sont dans un comportement, ils vont commencer avec ce qui se fait aujourd'hui. Ce qui se dessine aujourd'hui, tout le monde sait où le train est en train de se diriger et chacun sait comment s'asseoir dans le wagon, qu'il soit le premier ou le dernier, chacun sait dorénavant où le pays veut s'orienter. Et je crois que par rapport aux recommandations, Uriel a dit que c'est le gouvernement qui doit donner le temps pour que tout se réalise. Et je crois que APUSIA ne peut pas rassembler les gens à Palimé et faire tout ce qu'il a pu faire pendant les deux ou trois jours-là sans que le gouvernement lui donne l'onction. Ça veut dire que collégialement, et APUSIA, et le gouvernement, et nous, qui sommes également impliqués, nous sommes en train de nous donner une nouvelle orientation. Et je sais et crois fermement que nous allons aboutir et que nous allons vaincre les gens qui sont coupables de corruption ou ceux-là qui sont complices de cette corruption-là pour que le Togo assainisse. Puis se développe.
En tout cas, comme le journal a écrit, on sent quand même qu'une nouvelle donne vient de prendre forme avec la APUSIA pour mieux lutter contre la corruption, par la prévention, par l'information également, la répression, si tant est que le gouvernement consent à lui donner les armes, un peu plus d'armes, notamment en termes d'investigation. Et autre pouvoir. Oui, Uriel.
Vous savez, il y a un autre aspect qu'on ne doit pas occulter. Le gouvernement, ainsi que tous les partenaires de lutte contre la corruption, ont intérêt à aller vite. Pourquoi ? Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont, d'une façon présumée, reconnus comme auteurs de corruption, qui détiennent assez d'argent, qu'on peut poursuivre, récupérer. Mais si on ne va pas vite, il y a aussi la nature. Ces gens-là seront là, ils vont vieillir, ils vont mourir, on n'aura pas l'information. Et ce qu'on devrait récupérer, on ne pourra plus le récupérer.
Il faut aller vite.
Il faut aller vite. Il faut aller vite. Comme Didier l'a expliqué, il y a des gens qu'on a identifiés, ils ont eu peur, ils ont remboursé rapidement l'argent. Vous savez, aujourd'hui, si l'exécutif décide d'aller vite, il y aura beaucoup de choses. 10 milliards par an, par exemple, ça peut résoudre le problème de l'Olomé. L'eau qui nous envahit chaque jour quand il pleut.
Merci Kakpala. Juste rappeler que ce n'est qu'une première partie. Hein, là, plus il a dit que l'atelier de Palimé, c'était pour les journalistes et communicateurs du Grand Lomé, de la région maritime des plateaux. Le même atelier va être répété pour nos confrères, journalistes et communicateurs des régions centrales de la Cara et des Savanes. Et puis, Didier?
Oui, justement, ce que Uriel dit est assez fondamental. Et là, il faut que l'atelier de Palimé a eu un succès reconnu par tous ceux qui y participaient. C'est l'une des rares fois, moi, je vais à Palimé, mais que j'ai participé à un atelier comme ça de cette envergure. Et j'ai vu, il y a beaucoup de sérieux avec de l'assiduité lors des travaux. Et on sent que tout le monde veut apporter quelque chose à la lutte contre la corruption. Et tout ce qui a été fait là, si le gouvernement, dans les semaines qui suivent, ou dans les... Je ne vais pas dire les mois, parce que Uriel dit que ça, si ça traîne trop, la nature peut jouer contre nous. Dans les semaines qui suivent, ne donne pas le tempo. Qu'il n'y ait pas une révision de la loi, par exemple, organique, enfin, la loi créant même la Pulsia, et on ne donne pas beaucoup plus de pouvoir, et qu'on ne travaille pas. Il y a beaucoup de dossiers de scandale de la République qu'on ne peut pas élucider. Mais on parle de beaucoup d'autres dossiers, on parle de la célèbre route... Lomé Vaughan en foin, on parle d'autres, des dossiers de participation à la coupe, tout ça. Mais il y a le dossier TVT qu'on ne nous éclaire jamais. TVT qui devrait être normalement, actuellement,
à son nouveau siège.
À son nouveau siège avec ses équipements
numérisés, consorts. Mais une enveloppe de 25 milliards de francs CFA.
25 milliards. Et depuis là, on n'a même pas construit une pièce là-bas, de l'autre côté. Et la TVT est toujours là-bas. 25 milliards.
Non, je crois que le siège est en construction.
Oui, mais en construction. Ben, qui ne finit jamais, vous voyez. Mais les 25 milliards sont où? Il faut des choses comme ça. Il y a plein de dossiers de scandales
donc,
comme ça.
Donc, que les recommandations soient mises en œuvre et que la Pulsia soit dotée de plus de moyens. Mais on termine avec Jean-Baptiste Tissot.
Oui.
Une fois n'est pas coutume, un président d'institution, le juge Abba, il était à Palimé. Il était arrivé le mercredi. Il a participé activement à toutes les séances. Il a fait des communications. Il a fait la modération, il s'est montré très proche, il a mangé, causé avec les journalistes du début jusqu'à la fin. C'est un exemple qu'on ne peut pas ignorer.
Oui, c'est un exemple parce que, vous savez, surtout quand je l'ai vu faire la modération d'une communication, je me suis dit ça m'a choqué.
Et surtout, il a un franc-parler. Hein.
Absolument.
Il ne s'embarrasse pas de langage diplomatique.
Non, ça,
il est... Quand le chat est gris, il appelait un chat gris.
Absolument. Ça nous a vraiment surpris agréablement. Donc, c'est le lieu quand même de souhaiter ce même comportement à l'égard des autres responsables d'institutions de la République. Et aller au-delà, on l'a dit, il y a eu des recommandations, non pas seulement à l'endroit du gouvernement, mais à l'endroit de beaucoup de... à la HAC... nous-mêmes journalistes, donc bien sûr, donc ça veut dire que ce qui a lieu de faire maintenant, c'est d'aller vite, parce que nous aussi, nous avons dans l'une des recommandations, il est dit que la révision du code de la presse et de la communication, il y a eu une recommandation sens, donc que nous ne devons pas occulter, parce que aujourd'hui, nous savons qu'il y a la présomption d'innocence, mais si notre code en l'état actuel ne nous permet pas de faire notre travail à bon escient, parce que nous estimons qu'il y a une pesanteur qui plane sur notre tête et on est parfois dans l'embarras quand on veut traiter un certain nombre de dossiers, surtout financiers. Donc c'est le lieu d'appeler les décideurs, notamment l'actuel Parlement, s'il peut faire quelque chose encore, et aussi le gouvernement, pour que le code de la presse soit aussi révisé, pour que nous ayons les mains libres pour pouvoir travailler et traquer
les détourneurs de la mise en œuvre de tous ces
crimes économiques.
Un peu dans le même sens, nous sommes toujours dans la lutte contre la corruption, mais également transparence dans tout ce qui est public. C'est à ce niveau que cet article de Liberté devrait intéresser. Quand Liberté écrit « Bonne gouvernance financière au Togo, le gouvernement actuel est-il réfractaire à la reddition des comptes. Et Liberté rappelle que en 2021, seuls 12 ministères sur 30 avaient pu produire leur rapport annuel de performance, et selon un rapport de la Cour des comptes. Et c'est une information que nous avons déjà dont nous avons débattu ici, puisque déjà dans sa parution du 14 février, le confrère L'Union écrivait déjà « Reddition des comptes, seulement 12 ministères sur 30 ont rendu leur rapport annuel de performance à la Cour des comptes pour le budget 2021 ». Pour dire ce que nous disons, pour rappeler à Rémiaou, ce que nous disons, c'est pas seulement la A plus IA, mais toutes les institutions, chacun devrait apprendre maintenant à faire vite et bien la tâche qui lui est confiée.
Absolument. C'est pour cela que je disais que c'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir sur le Togo. C'est une nouvelle marche. Et chaque citoyen, où qu'il travaille, où qu'il soit, doit pouvoir s'accommoder à cette nouvelle orientation. Et ce n'est pas là à plusieurs. Les ministères et toutes les autres structures étatiques, chacun doit être au pas. En Mina, on dira « Azonlieye, Amécha Melakple ».
Azonlieye, Amécha Melakple. Et en Kotokoli, on dirait quoi?
Oh, Bode, que fadé.
Pardon?
Bode,
que fadé. Kotokoli, écoute. Hein?
Ouais, ils savent que je ne mens pas. Je dis, je parle du Kotokoli. Bode, que fadé.
Et Kakpala et en Kabye de la Bina, on dirait quoi? Azonlieye, Amécha Melakple.
Donc,
en cabier de la Bina.
Non, en cabier de.
Malogou.
De Boufale à Numbangouhal.
Pardon?
Numbangouhal. Voilà.
Alors, je vais demander au ministre d'État. Si tu as vraiment bien rendu ça en cabier de la Bina.
Ça, c'est. Oui, tout ce que nous disons là, et ça va se matérialiser si réellement il y a une volonté politique. Parce que. Et ne nous leurrons pas, lors de l'atelier aussi, on a mis l'accent sur la volonté politique au plus haut sommet de l'État qui doit quand même guider toutes les actions, tous les désirs en matière de lutte contre la corruption. Parce que si il n'y a pas une volonté manifeste au sommet de l'État, bon, on a bel et bien formulé des recommandations, mais ces recommandations...
Et c'est ce que nous faisons bien de rappeler ici.
Absolument.
Et quand tu dis au sommet de l'État, tu penses notamment à qui?
À Fornyasingbe,
justement, qui était la semaine dernière en visite officielle à Paris sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron, plusieurs jours après, mais le sujet revient toujours dans l'actualité avec Nouvelle Opinion. Harry Miaou, ton journal met à la manchette fort chez Macron, Paris et Lomé renforcent leur coopération.
Absolument. Je crois que beaucoup de gens attendaient un tête-à-tête entre le président togolais et le président homologue français. Et d'aucuns avaient cru que ce n'était pas quelque chose qui devait se réaliser, puisque les gens en parlaient, d'autres l'annonçaient même. C'était comme impossible, et finalement cela a été. Et vous avez vu avec quel respect les deux chefs d'État se tenaient. Et après tout, ils ont échangé sur beaucoup de choses, comment renforcer la coopération entre le Togo et la France. Et au-delà de ça, ils ont également parlé sécurité. Sécurité au Togo et dans la sous-région. Donc, vous comprenez qu'ils ont parlé également de terrorisme qui secoue notre sous-région. Et ensemble, les deux chefs d'État ont donné des orientations, des recommandations. Comment faire pour que les liens se renforcent entre nos deux pays et comment faire également que le combat puisse être une réussite au niveau du Sahel et au niveau du nord de notre pays où les terroristes font tout le temps des éruptions et qu'on se débrouille à notre manière à pouvoir contenir. Et donc, c'est une rencontre qui, effectivement, est saluée par tous. En réalité, les Togolais doivent saluer cette rencontre parce qu'elle vient également, à point nommé, consolider les liens entre notre pays et notre métropole. Quoi qu'on dise, c'est la France et nous avons beaucoup de choses à gagner à travers
Merci.
La rencontre.
Visite saluée, mais nous sommes dans un pays démocratique et libre. Oui. Et d'autres personnes voient la même visite d'un autre côté ou bien sous d'autres angles. C'est le cas de le correcteur, du confrère le correcteur qui titre ce matin... des glorioles de l'Élysée face aux réalités du Togo. Je n'ai pas eu le journal papier pour lire l'article, mais on peut deviner ce que nos amis de Le Correcteur voudraient dire sous cet article. Il est 11h51. Le dernier sujet dont nous allons discuter, c'est le recensement électoral qui a eu lieu dans la zone numéro 1 du 29 avril jusqu'au 8 mai dernier. Quelle opération devrait être reconduite à partir du samedi 13 mai dernier dans la zone numéro 2. Et puis c'est la veille ou bien l'avant-veille du démarrage que la CENI a diffusé un communiqué pour dire que ce démarrage était sursis, sine die, et que les nouvelles dates seraient communiquées ultérieurement. Nous sommes aujourd'hui lundi 15 mai. Rien ne transparaît encore de la part de la CENI. Kapala, Uriel?
Voilà, tout à fait. Le 11 mai, je crois bien que M. Dago Yabra a sorti un petit communiqué en trois phrases.
Il aime beaucoup les petits communiqués.
Où il indiquait que les opérations qui devraient démarrer le 13 mai dans la zone 2, comme préalablement prévu, ne pourrait pas tenir. Et il a eu à présenter ses excuses aussi à toute la population, mais il n'a pas précisé les raisons qui ont motivé ce report qui jusqu'ici n'a pas encore indiqué les dates. Bon, hier quand même j'ai appelé un agent de la CENI pour voir concrètement les raisons qui sous-tendent, mais c'est ce que tout le monde pouvait penser. Vous savez, au vu de tous les dysfonctionnements qu'on a pu constater dans le Grand Lomé, je pense que la CENI est en train de prendre de nouvelles dispositions, parce que même en Conseil des ministres, il y a eu cette recommandation-là. Gouvernement, les membres du gouvernement, après avoir salué
la mobilisation
ils ont invité la CENI à prendre des dispositions pour que les manquements...
Le gouvernement avait salué la mobilisation des populations, mais le gouvernement avait déploré les dysfonctionnements et difficultés qui ont émaillé l'opération.
Avant d'inviter la CENI à prendre de nouvelles dispositions pour qu'on n'ait pas les mêmes dysfonctionnements dans les zones à venir. Je pense que au vu des informations que nous avons reçues, c'est par rapport à ça la CENI est en train de prendre de nouvelles dispositions pour que dans la zone 2 et 3 les mêmes dysfonctionnements ne puissent être constatés. Bon, tout le reste, je ne sais pas, politiquement, techniquement, il peut y avoir autre chose, nous n'en savons pas. Mais ce que le commun des mortels que nous sommes nous déplorons, c'est si on devrait reporter ainsi, sans connaître jusqu'ici le démarrage du recensement dans les zones 2 et 3, on aurait dû laisser poursuivre au moins en 2-3 jours pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de se faire enrôler dans la zone numéro 1 puissent se faire enrôler.
Voilà. Et Arimiaou? Non, bon, je crois que chacun de nous a pu suivre ce qui s'est passé dans la zone numéro 1. Tout le monde est au constat qu'il doit y avoir des Togolais qui sont dans cette zone qui auraient voulu se faire enrôler et qui n'ont pas pu. Une question se pose toujours. Les gens sont restés sur leur soif. Pas plus qu'avant-hier, j'étais avec certaines personnes qui disaient n'avoir pas pu le faire malgré la volonté qu'elles ont pu marquer. Elles n'ont pas pu et qui me demandaient, et moi le journaliste, si je suis au courant ou informé qu'il va encore avoir une prorogation de deux ou d'une journée pour que eux autres aussi, ils puissent avoir leur carte. Et donc, ça aussi, c'est une question que pendant qu'il y a ce silence, où personne ne sait encore quand on va démarrer dans la zone 2 et 3, qu'on puisse aussi, au niveau de la CENI, réfléchir et voir. Le bon sens le recommanderait, à mon avis, qu'on fasse en sorte que tous ceux qui sont en âge de se faire enrôler, que chacun puisse effectivement se faire délivrer une carte.
Oui, Atitio Kodjovi.
Oui, ça, je crois que la question concernant le recensement électoral est une question vraiment sensible. Et comme on le dit, une élection se joue à travers le recensement. Et donc, la préoccupation première, c'est que ce qui s'est déroulé dans la première zone ne satisfait pas trop les attentes de beaucoup de Togolais. Parce que une institution. D'abord, nous avons déploré le fait que la CENI n'ait pas communiqué suffisamment sur cette opération de recensement, parce que ça, tout s'est passé comme si c'est à part de charge. On n'a pas eu de sensibilisation sur une durée avant que cela ne débute dans la première zone. Et aussi, quand cela a démarré, c'est timidement, parce que les matériels n'ont pas été au point déployés.
Bah, à ce niveau-là, il y avait un contraste. Même sans communication de la CENI, les populations s'étaient fortement mobilisées.
Mais la CENI n'a pas été au rendez-vous.
Par endroit.
Pas la disponibilité devant le matériel. Par endroit, oui, mais il n'y a pas la disponibilité parce que l'institution qui est chargée de faire l'enrôlement n'a pas déployé le matériel à temps. Mm-hmm. Et maintenant que les gens se sont mobilisés, certains qui ont perdu une, deux, trois journées pour pouvoir se faire enrôler, et d'autres qui, compte tenu de la mobilisation, n'ont pas eu l'occasion de le faire et maintenant qui sont laissés sur le carreau. Mais je crois que pour ne pas les léser et brimer surtout leurs droits, parce que eux, quand la personne s'est déplacée pour aller dans un centre de recensement et de vote, mais qui n'a pas pu avoir sa carte d'électeur, je crois que ça revient maintenant à la CENI et pas ricocher au gouvernement de voir dans quelle mesure faire un rattrapage pour permettre à ces gens-là aussi de se faire enrôler, parce que les gens ne sont pas restés dans leur maison, mais ils se sont déplacés et ils sont arrivés sur les lieux et étant, on peut dire, une forclusion, c'est-à-dire que le deadline, la date limite que la CENI a fixée pour le recensement est arrivée à son terme, je crois que ces gens-là ne peuvent pas être laissés sur le carreau comme ça, parce qu'ils vont garder peut-être cette amertume jusqu'à...
C'est leur droit de se faire recenser de temps plus qu'ils se sont déplacés, ce n'est pas leur faute.
C'est ça.
Mais la CENI leur doit des explications. Et c'est à ce niveau, Didier,
Permets que j'ajoute quelque chose. Et aussi, il faut surtout veiller aussi à l'identité de ceux-là qu'on enregistre, parce que j'ai assisté à une scène dans un centre de recensement. Ça, ce n'est pas très bien signé, surtout quand on demande au chef d'envoyer leurs représentants pour pouvoir témoigner de reconnaissance de tel ou tel individu dans son quartier ou bien dans son canton. Il faudrait que réellement ces gens-là assument pleinement leur rôle, parce que parfois, moi j'ai eu à circuler dans beaucoup de centres de recensement, ces représentants des chefs traditionnels étaient absents et les gens qui venaient sans pièce d'identité, on les a enroulés comme ça.
C'est un dysfonctionnement
très notoire de la CENI.
Et parce Didier, on va terminer par toi en une, deux minutes. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre le comportement de la CENI en termes de communication? Voilà l'opération qui, c'est la façon dont ça s'est passé dans la zone 1, avec beaucoup d'embarras, beaucoup de mécontentement, beaucoup de déceptions. La CENI, qui l'avant-veille du démarrage dans la zone 1, sur soi à tout, et puis jusqu'ici rien. On ne dit rien. Si on va revenir dans la zone 1, quel jour on va démarrer dans la zone 2 alors que l'année n'est pas extensible à merci?
Vous savez, c'est une double ou triple incompréhension au niveau du fonctionnement de cette CENI. Et on voit qu'à plusieurs égards, cette CENI est en train de violer plusieurs dispositions du code électoral. Et on peut constater, pour ceux qui lisent un peu la loi électorale, on peut constater. D'abord, il est fait obligation à la CENI de sensibiliser, de communiquer, de sensibiliser les populations. Elle ne l'a pas fait. Alors, ça, c'est la première incompréhension. Si, bon, peut-être, quand on parle comme ça, on va dire, ah, peut-être les journalistes sont laissés sur le carreau, et ils s'énervent. Mais même les affiches, un peu partout, j'ai vu des affiches qu'on s'est précipité pour coller le jour même où on finissait dans la zone 1.
C'est contradictoire.
Mais c'est contradictoire. C'est une aberration. On ne peut pas expliquer. Mais on ne sait pas comment. On a eu quelques informations. On sait qu'au niveau de la sous-commission là-bas, c'est très compliqué. Et chacun veut jouer. Chacun veut devenir communicateur au sein de la CENI. Mm-hmm. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais peut-être qu'il y a des enjeux là-bas. Peut-être que la
financière
pourrait justement envoyer ses regards vers là. Mais sur le déroulement même du recensement, comment est-ce qu'une opération qu'on mène depuis 2007 a pu être, on va dire, malgré ce qu'on dit, que les chiffres sont encourageants et tout ça, a pu être d'un échec aussi cuisant après autant d'années, après autant d'années d'expérience. Et ce que la CENI et les planificateurs de la CENI ont oublié cette fois, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce n'était pas une révision électorale. C'est les révisions électorales, ça passe vite, il n'y a pas d'affluence. Mais là, vous avez décidé, et il y a un accord entre les acteurs, enfin les participants au cadre national, au cadre de concertation entre les acteurs politiques. Il y a eu un accord qu'on rase l'ancien fichier électoral, qu'on constitue un nouveau fichier électoral. Vu qu'on n'a pas un état civil au point qui fonctionne et qui aurait pu permettre de constituer une base du fichier qu'on révise, la CENI aurait pu prendre assez de dispositions, déployer tout le matériel pour que justement ce problème-là qu'on a connu, on ne connaisse pas. Mais là, actuellement, ils ont reporté l'opération dans la zone 2, dans la zone 3, et on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre. Justement, tu le dis, il n'y a plus rien, aucune communication. Uriel a dit que l'autre s'est contenté de 3 paragraphes de communiqué pour dire que l'opération est repoussée. On ne comprend absolument rien, au point que le gouvernement lui-même, en conseil des ministres, déplore la façon la CENI fonctionne.
Il n'est pas du tout bon que la CENI laisse l'opinion dans le flou, entretenir des zones d'ombre. Ce n'est pas bien du tout. Nous connaissons personnellement beaucoup de membres de la CENI. Nous connaissons leur expérience. C'est pourquoi nous ne comprenons pas ce qui se passe. Des gens qui sont à la CENI depuis 10 ans et plus, des gens qui ont fait la formation Bridge, qui ont fait leur preuve, Monsieur Potopéré qui est là-bas, et ça se passe. Monsieur Romao, qui est là-bas, ça se passe?
Augustin Sizing aussi.
C'est pas à comprendre. C'est pas à comprendre. Eh bien, chers membres, nous vous connaissons, nous connaissons vos potentialités. Remettez-vous à l'œuvre. Nous ne voudrions pas que l'opinion soit désagréable avec vous. Eh bien, c'est fini pour la première partie. Il est 12h passé de 2-3 minutes. Nous marquons une pause en attendant de nous brancher sur vous. Les deux numéros n'ont pas changé. C'est le 22 21 33 74. Ou bien le 91 36 63 75 pour recueillir vos commentaires ou vos questions sur les sujets dont nous avons parlé aujourd'hui. 93.5. Nous avons parlé des suites de la pluie de ce matin dans Lomé et ses environs. Nous sommes revenus longuement et largement sur l'atelier de la APLUSIA tenu à Kpalimé pour relancer la lutte. Et puis, nous avons également abordé la visite de Fornia Singbe à Paris la semaine passée. Puis, on a fini par les couacs dans le recensement électoral. À présent, la parole est à vous. Premier auditeur, bonjour.
Bonjour, Monsieur Sass.
Oui.
Je salue le plateau.
C'est Papa Sordinet depuis Amoutievé.
Depuis Amoutievé, voilà.
Eh bien, nous vous écoutons.
Oui, je vais préciser. Bon, pour qu'une élection soit transparente, il faut un bon recensement. Ça doit commencer par le recensement.
Oui.
Et voilà qu'on fasse le recensement maintenant, que deviendra l'élection elle-même. C'est la question que tout le monde se pose.
Oui.
Il faut que tout le monde se recense, ou bien s'enrôle, en attendant le jour de l'élection.
Oui.
Et voilà qu'on a posé. Donc, on prie les membres de la CENI de bien refaire le recensement. Merci, bonne journée.
Merci. Nous avons connu l'élection présidentielle et législative en Turquie hier. Taux de participation de 90%. Les résultats qui font l'objet de commentaires, ça veut dire que c'est l'actualité ici et ailleurs. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, Sass, bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Nous rendons grâce.
Je salue tout le plateau, que le Seigneur vous bénisse. Hein.
C'est amen, Sengor. Amen, Monsieur Sengor.
Ça fait deux jours. Bon, je remercie, je salue plutôt le président de APLUSIA et cet atelier qui s'est déroulé à Palimé. Vous voyez, ça, c'est ce que les Togolais veulent. Hein? Pour que les choses soient clarifiées, vous savez, ce qui énerve les Togolais, mais pourquoi pas moi, c'est un grand, et ces gens se la traînent. Moi, il arrive des fois que je vois ces personnes-là, les corrompus, là. Mais non! Ça veut dire que Et ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas développer le pays, vous voyez. Donc je crois que en Kabyé on dit « Tonek Fare ». Vous avez dit « Azonlieye », en Kabyé c'est « Tonek Fare ». Voilà, vous voyez, non, donc ça a commencé.
Là c'est Kabyé de la Kosa ou bien Kabyé de... Alors, Monsieur Senghor, votre Kabyé c'est de la Kosa?
Oui, c'est de la Kosa, okay. Kabyé plus, moi je suis de l'Assa, moi.
Ok, merci beaucoup.
Voilà. Vous voyez, deuxième point, quand on dit Macron a reçu, Fora à Élysée, tout ça là. Bah, dites-moi, ça donne quoi? Bon, ok, s'il a invité pour que ces étudiants politiques-là puissent revenir, les Boko, les Hama, Olivier, les Adeyome, autres là, pour venir construire la nation, là, c'est bon. Mm-hmm. Nous connaissons les problèmes de la France aujourd'hui en Afrique. Vous voyez, bon, voilà, Faure qui perd déjà 5 ans, 4 ans plutôt pour son mandat. Le cinquième, on ne sait pas si Macron va le dire de le faire ou pas. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est la France qui nomme ce président-là. Donc moi, il faut que les Togolais essayent de dire, on a reçu Faure à Élysée, on a reçu le président togolais, mais ça va donner quoi? Donc je vous remercie. Ouais, moi, j'aime beaucoup l'alternance. Hein. Moi, Senghor, j'aime beaucoup l'alternance. Parce que je veux que mon pays soit comme le Maroc. Je veux que mon pays soit comme la Côte d'Ivoire. Quand un président part, quelqu'un vient, il va faire plus que celui-là qui est parti. C'est comme ça l'alternance. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis.
La balle est évangéliste Senghor, l'auditeur suivant, bonjour. Allô.
Bonjour, Canal FM.
Oui. Bonjour, là, c'est sûrement Richard depuis Copenhague.
Richard depuis Copenhague. Bon lundi à vous.
Oui.
Ouais, vous avez parlé de la corruption. J'ai une, deux questions par rapport à cela.
Mm-hmm.
Vous parlez de la corruption ou bien du détournement public. Bon, si il faut parler de la corruption, vous parlez, bon, la corruption qui concerne nous qui allons sur Sanelli ou bien d'autres qui allons qui vont sur les prades.
Oh, l'ami
les
Richard.
Togolais qui vous les prades ou bien les Togolais qui vous les Sanelli. Car eux, ça concerne.
En tout cas,
vous n'êtes pas pour savoir qu'en ce temps, juste pour il y a eu une commande d'avion présidentiel, les gens sont allés apporter des propices, des soi-disant propices. Et l'avion a été garé moins d'une année. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui, il y a des machines qui sont présentées pour faire les recensements de la population. Et à chaque fois, ça tombe en panne. Je ne viens pas ici pour citer beaucoup d'exemples. Même le groupe électrogène, les gens vont prendre des copies, ils vendent, ils peignent, ils présentent comme des trucs nouveaux, et quelques jours après, ça tombe en panne. C'est de quelle corruption on veut parler? On parle de corruption pour les personnes qui vont à prison, ou bien de corruption pour la pauvre population comme nous.
Merci, l'ami Richard. Ce que je peux vous dire, hein, c'est que, comme son nom l'indique, la A plus IA part en guerre contre tous les actes de corruption et d'infraction assimilés. Et un de ces prochains jours, nous pourrions avoir un expert de la A plus IA pour nous éclairer davantage. De Copenhague, nous revenons à Badougbé ou bien à Kpewa. En tout cas, c'est au Togo, n'est-ce pas, Michel? Ok, le prochain auditeur. En attendant, le prochain auditeur, Didier, à la question de Richard, on peut dire que la corruption, c'est dans toutes ses dimensions.
Oui, la corruption, c'est une hydre. On ne peut pas dire que tel acte. C'est pour ça que le gouvernement a bien fait, lors de la création de la Pulsia, de dire que corruption, mais infraction assimilée. Il y a des infractions, des choses qu'on peut assimiler à la corruption. Et donc, tout ce qu'il décrit là, oui, c'est assimilable à la corruption. Donc, si des gens détournent les deniers publics, si des gens, au lieu de commander le marché public, commandent de faux matériel ou de matériel de basse qualité afin de garder le reste de l'argent par devers, eux, c'est des infractions assimilées à la corruption. Donc, ils doivent être poursuivis pour cela aussi.
Merci. L'auditeur suivant, bonjour.
Mon directeur, bonjour.
Papa Sibiti.
Bonne arrivée.
Merci beaucoup.
La fois passée, je ne vous ai plus entendu. Bon, vous voyez, il a plu. Nous crions. D'ailleurs, vous avez dit que vous allez m'aider, pas nous aider. Venez voir ce que nous endurons.
Oui, oui.
Notre collecteur.
Oui, qui ne marche toujours
bassin,
pas.
C'est le plus mauvais des bassins. Maintenant, comment faire, hein, pour si le collecteur là se bouge? Comment nous allons faire?
Oui.
Deuxièmement, notre président de la rue, il est parti. Ils n'ont qu'à tout faire pour irradier le djihadisme là.
Éradiquer,
merci pour la correction.
Je vous en prie.
Ce djihadisme. Et puis deuxièmement, troisièmement, en les élections, tout le monde en parle. Pour que le président voit, pour que les choses, qu'on ne dise pas que c'est lui. Là où vous êtes, vous, si vous êtes président, moi je serai, je suis d'accord. Il ne faut pas sous-estimer les gens, les haïr. C'est Dieu qui donne. Si mm-hmm. Dieu vous donne, suivons. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Bon, pour le cas de Papa Sibiti, voilà un enseignant éducateur à la retraite. Il a pu faire l'effort de construire une maison et avec les travaux faits dans le quartier, sa maison et le quartier est inondé. Qui ne connaît pas Papa Sibiti et qui ne sait pas que sa maison est inondée? Voilà Papa Sibiti qui se retrouve encore les pieds dans l'eau. Il a tellement dit ici, en face même des ministres de la République, et des ministres lui ont demandé de passer les voies, mais le problème reste toujours irrésolu. Est-ce qu'on ne peut pas avoir pitié des retraités, aller trouver une solution à ce collecteur à Djidjolé derrière la maison d'Adebayo, à Rimiaou? Ça quand même, on peut le faire, non?
Oui, c'est pour ça que je disais que il faut que ceux qui sont en charge de pouvoir solutionner ces difficultés-là puissent comprendre raison et qu'ils puissent s'engager à le faire. De peur que le pire n'arrive, mm-hmm. pour qu'on se mette à corriger. Dit que nous connaissons le Togo, nous savons comment les choses se passent chez nous. C'est quand le pire arrive qu'on met tout l'arsenal pour corriger ce qu'on aurait pu corriger.
Et après, on oublie.
On oublie.
Merci, je viens à vous. Je viens à Kakwala, le temps de prendre l'auditeur qui est en ligne. Bonjour.
Thank you.
Merci, l'auditeur, c'est moi. Notre solution,
oui.
c'est d'aller chez le fils du président Yadmar. Et soit les hommes, le terrain de Tokila.
Oui.
Vous voyez, de nous faire des caniveaux là-bas et amener dans le bassin, arranger ce bassin, ça nous serons allégés. Mmh. Au moins 3 ou 2 caniveaux. Ce qui me gêne, je vous remercie avec Arimio. Le Premier ministre est avec nous, à quelques mètres de nous. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on fasse des marches ou bien quoi? Hein? Qu'ils solutionnent en partie les choses. Merci, que Dieu vous bénisse d'avoir pris nos problèmes. Merci beaucoup.
Et voilà, Papa Sibiti qui devient ingénieur génie civil pour indiquer la voie. Oui, Kakwala.
Vous savez, peut-être à son niveau, c'est une solution individuelle, mais et quand vous...
Non, dans tout le quartier.
Dans tous les quartiers.
Oui, oui, oui.
Bon, et je vous invite, lorsque je parlais d'Agogny V2, vous savez, ce n'est pas un paradis. Hein. L'un des quartiers qui vit problème, c'est là-bas. Quand vous prenez le contournement, c'est une route, c'est un boulevard qui a été construit sans prévision de bassin de rétention d'eau. En réalité, lorsqu'on construit une route, on prévoit en même temps les bassins de rétention d'eau pour que les caniveaux puissent évacuer ces eaux-là vers les bassins. Donc, actuellement, tout le contournement-là n'a pas été accompagné par les bassins de rétention d'eau, si bien que quand il pleut, les eaux se retrouvent dans les maisons entièrement. Ou soit les terrains vides recueillent les eaux et puis bon, les maladies comme le choléra et tout, toutes les maladies hydriques se retrouvent sur les humains qui habitent.
Merci, voilà. L'auditeur qui est en ligne, bonjour.
Oui, bonjour mon grand frère Fidavou, bonjour le plateau.
Ça c'est Benoît Dagoué.
Oui, grand frère, c'est moi.
Nous vous écoutons.
Bon début de semaine à tout le monde.
Merci.
Bon, je voulais seulement dire du courage à mon grand frère Papa Sibiti. Et je vais dire que le bassin, c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Nous l'entendons. Et c'est pourquoi il faut la permanence. Hein. Et si le premier ministre, la première ministre a voté à quelques mètres, et il y a ce problème. Bonjour à la permanence.
Merci bon beaucoup. Émission. Benoît Dagoué qui passe le micro au suivant. Bonjour. Ah, il est parti, mais il va revenir. Merci donc, Papa Sibi, Papa Sordinin, évangéliste Senghor, notre ami Richard depuis Copenhague, Papa Sibiti par 2 fois, Benoît Dagoué, qui sont revenus, c'est soit le recensement électoral, ou bien la Aplusia, ou la lutte contre la corruption, ou encore ces blèmes d'inondation. À titre Kodiovi, voilà les préoccupations que les auditeurs expriment.
Oui, je crois que je peux revenir rapidement sur ce que l'auditeur Sordinet a exprimé comme souhait mm-hmm. concernant la reprise du recensement. Je crois que c'est une question qui préoccupe beaucoup de Togolais, et surtout dans la zone numéro 1. Et je crois que bon, la CENI et aussi les décideurs politiques surtout doivent prendre en considération ces cris de ces compatriotes qui n'ont pas pu se faire enrôler et restaurer leurs droits, parce que eux aussi, ils ont quand même, tous ceux qui remplissent les conditions, ceux qui ont leur pièce d'identité, qui atteignent l'âge requis pour se faire enrôler, doivent rentrer dans leurs droits pour ne pas être sur le carreau et faire des aigris surtout. Hein. Mm-hmm. La CENI ne doit pas faire des aigris parce que tous ont droit de porter leur choix sur X ou Y. Mais si on, les, on ne leur délie pas la carte, ça veut dire qu'on les a brimés. Et bon, si on est dans un pays bien organisé, ça peut coûter à la CENI.
Merci. La carte d'électeur, hein, c'est un droit inaliénable à tout citoyen de la détenue. Et si le citoyen a l'impression, à tort ou à raison, que c'est quelqu'un qui l'en a empêché, état de droit, hein, cet auditeur-là, ce citoyen pourrait saisir la justice, pourquoi pas. État de droit, ça passe par là aussi. Absolument. Eh bien, nous allons faire un tour de table. Vous avez chacun une minute pour votre conclusion ou bien pour nous informer de quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Commençons par le président du CONAP, hein.
Non, bon, je voudrais surtout revenir sur ce que vous avez fait avec Aplusia Palimé. Féliciter tous les acteurs, surtout le président de Aplusia, qui vient de Java et qui a beaucoup d'acquis qu'il a pu partager avec vous là-bas et qui a donné des orientations utiles pour la relance de notre pays dans son combat contre la corruption. Et je voudrais dire également à la CENI, de trouver la bonne formule pour que ceux qui sont restés, le reliquat qui est là, qui n'a pas toujours pu avoir sa carte, qu'on trouve la formule de leur faire délivrer ces cartes-là pour qu'ils puissent également en jouir. Parce que, comme tu viens de le dire, c'est un droit qu'on ne peut jamais leur arracher.
Jean-Baptiste.
Ok. Je crois que la question électorale préoccupe beaucoup de citoyens aujourd'hui. Et je crois que les acteurs politiques qui sont les meneurs doivent aussi être dans la danse. Et surtout, les partis politiques qui, de ça et là, ont commencé par faire soit les congrès ou bien... ça dépend des dénominations que chaque parti veut donner à cela. Mm-hmm. Et je crois que la bonne foi doit prévaloir, la morale aussi doit prévaloir, parce que au début tu as donné une citation qui m'a beaucoup intéressé, puisque on dit souvent que en politique la vérité n'est pas toujours de mise, mais je crois que avec ce que nous avons vécu depuis 2018 avec la feuille de route que la CEDEAO avait élaborée suite au soulèvement de 2017 jusqu'à 2018, aux acteurs politiques togolais. Et avec les réactions, les comportements des acteurs politiques jusqu'à nos jours, je crois qu'il y a nécessité de moraliser la vie politique au Togo. Parce que le comportement des uns et des autres n'inspire pas bien confiance pour que les électeurs puissent être à leur côté pour jouer le jeu politique.
Merci. La pensée du jour disait ceci: la société est devenue si malhonnête que la vérité offense réellement les gens. C'est ça. Comme Didier Assogba.
Ben moi, je souhaiterais justement que, vous savez, quand vous ne vivez pas une situation, vous ne savez pas quand les gens en parlent, par exemple. Je ne vais pas revenir sur la question politique, et ça tout le monde en a parlé, la CENI. Selon les prérogatives que lui donne la loi, c'est ce qu'elle doit faire, et le gouvernement qui accompagne la CENI, les autres partenaires savent justement ce qu'il faut faire pour que cette affaire soit corrigée, parce que le fichier qu'on constitue maintenant, c'est pour le futur. Moi, je veux parler de l'affaire des inondations. On en parle, et à intervalles réguliers, on en parle, hein, avec je pense à l'ouverture de la saison pluvieuse ici, on en avait parlé. Et aujourd'hui, on reparle encore de la question, avec ce que vivent les Papacibiti, d'autres qui sont proches des bassins de rétention d'eau, à Didogomé, Douane, Sauviépé, Léo 2000, Carrefour, on ne va pas les citer. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire, on est face à une vérité qu'il faut corriger, enfin, pour laquelle il faut travailler, qui nous oblige à travailler pour que tout ce qu'il faut faire pour que l'inondation, Lomé, cette belle ville, ne soit pas une ville dont la réputation est gâtée par les inondations, les questions d'inondation. Et bon, ça fait des fois qu'on est dans ce studio, ça fait combien de fois Papa Sibiti appelle pour son quartier. Et si tous les citoyens doivent appeler de tous les quartiers qui connaissent des problèmes d'inondation, mais on risquerait de faire des émissions d'inondation finalement. Et je ne sais pas ce que ça apporte aux autorités, au gouvernement, aux mairies et à d'autres structures qui sont véritablement engagées dans cette route. Il faut qu'on trouve, qu'on fasse un sursaut d'orgueil, qu'on se décide, peut-être quand on va collecter beaucoup d'argent sur la question à l'issue de la lutte contre la corruption, on va peut-être gérer ça.
Merci Didier, nous pouvons le faire, on l'a fait, hein? Les gros problèmes d'inondation à Enfam et à Dakpamé, on l'a fait avec le 4e lac et ses installations. Alors si on a pu réussir ça, on peut résoudre le problème. Il faut seulement trouver des solutions pour les bassins d'orage, notamment comment évacuer le trop plein d'eau.
Mais ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas une volonté. Et donc dès lors qu'il y aura cette volonté,
la volonté arrivera
évidemment.
Merci beaucoup. Je pense qu'il faut attirer l'attention de, je ne sais pas s'intéresser à quel ministère, mais je voulais juste parler de ceux-là que nous appelons les tricycles. Alors, si le ministère des Transports, de la Sécurité, tous les ministères concernés par les assurances peuvent revoir la situation des tricycles pour que ces gens-là renouvellent leur assurance. Parce qu'ils sont ceux-là qui causent plus d'accidents sur nos routes. Et lorsque ça survient, c'est des gens qui ne renouvellent pas les assurances. Ils achètent cette moto, c'est fini avec la première assurance. Après tout, ça ne se renouvelle pas, ça reste comme les motos, les deux roues. Ce sont les tricycles, ils sont majoritairement ceux qui causent des accidents. Je ne sais pas pourquoi, sans le renouvellement des assurances, ils sont sur la route. Il faut que le ministère des Transports, je ne sais pas si c'est eux qui sont en charge, le ministère de la Sécurité, qui prennent les dispositions pour obliger ces gens-là à mettre à jour leurs assurances pour le bien de tous les usagers.
Il faut ajouter également que les conducteurs des tricycles passent leur permis de conduire. Comme ça, ils connaîtront le Merci. Code de la route Tout et savoir fait. Comment il faut circuler
Tout à fait. Hein,
sur la route. Merci à vous tous. Hein. Kakbala, Komi, Kodjovi, Arimiaou. Je suis heureux de retrouver ce studio et d'animer avec vous pour lancer la semaine. Je dis encore merci à Komi, Pascal Ossou, qui a animé le club du dernier. À notre bon Fousseni Saïbou aussi, hein, qui nous a suppléé pour le vendredi. C'est comme ça, le club de la presse, c'est une aventure, hein, un mouvement d'ensemble qui passe au jour le jour. C'est pourquoi nous serons au rendez-vous demain, mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.